professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
On prend le temps. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice, bonjour les auditeurs.
Dans une société où tout va vite, on prend un peu le temps, voilà. Hein, on laisse un peu courir le générique, on se dit, on souffle un peu. Ouais. On sent bien. On sent bien avec le docteur Vincent Renaud. Santé intégrative.
Allez, on va faire une heure semaine. Sans parler.
Voilà, allez, on met la musique pendant une heure. Tiens, alors non, vous inquiétez pas, on est là. Et on remercie notre partenaire, le laboratoire COPMED, spécialiste fabricant de compléments alimentaires dédiés, voilà, à tout ce qui est micronutrition, tout ce qui est justement pour vous, confort intestinal, confort ostéo-articulaire. Je vous dis ce qui me vient là sous les yeux, voyez-vous. Laboratoire familial, on les remercie pour leur soutien dans notre mission, parce que c'est vraiment une mission, plus que des émissions, oui. C'est une mission vraiment de faire en sorte qu'on puisse vivre mieux et plus longtemps, dans de bonnes conditions, anticiper les symptômes pour avoir un terrain qui soit hyper accueillant, quoi.
Bien sûr,
tout simplement. Et donc là, depuis la semaine dernière, docteur Vincent Renaud m'a dit, bah tiens, ce qu'on va faire, c'est que pour que les auditeurs puissent bien voir la différence entre la médecine conventionnelle et cette médecine fonctionnel. On va prendre des petits cas concrets. On a fait les maux de tête la semaine dernière, en rappelant évidemment qu'il ne s'agit pas de faire un diagnostic sur antenne, ni de se soustraire ou de se substituer à une visite chez un médecin et à un traitement. Mais comme ça, vous avez une petite idée de ce qui peut vous attendre si vous n'avez pas encore franchi le cap de la médecine fonctionnelle, si vous avez aussi des interrogations, des doutes sur la manière dont une consultation peut se passer. Et puis on sait aussi qu'on a aussi de nombreux professionnels de santé, des médecins généralistes
qui nous écoutent.
Et donc, vous aussi, cher, je ne vais pas dire cher confrère, mais dites-le vous, Vincent, cher confrère.
Cher confrère,
voilà, moi, évidemment,
je vous embrasse.
Et donc, peut-être que ça vous intéresse, que vous avez envie de passer le cap, soit de vous former en médecine fonctionnelle, soit peut-être de former un binôme avec un médecin fonctionnel, parce que je pense que là aussi, c'est vraiment le binôme gagnant, moi.
C'est le but, hein. Moi, je sais que je suis en contact avec beaucoup de naturopathes, dont Alexandra.
Non, mais moi, je ne parle pas des naturopathes, moi, je parle des médecins.
Ah oui, des médecins généralistes.
Non, moi, je dis que le binôme gagnant, il y en a deux. Il y a le médecin conventionnel et qui travaille en binôme avec un médecin conventionnel.
Ou le médecin conventionnel qui va intégrer une demi-journée par semaine.
Non, mais ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il est tout seul. Moi, je vous dis, si on devait. C'est soit
la médecine de demain. Bah, oui, mais déjà pas assez de médecins.
Et oui, bon, d'accord. Allez.
C'est pour ça qu'on on va travailler en binôme avec des médecins, médecins, mais médecins pharmaciens en pratique de médecine fonctionnelle, parce que ça s'appelle médecine fonctionnelle, même s'ils sont pharmaciens. Vous disiez la dernière fois que
c'est un problème,
c'était
ça, déjà
pas compatible.
Ouais, c'est un problème.
Que le terme de naturopathie, il est galvaudé. Bon, moi, je dirais high practiker, on va dire, comme ça sera plus simple. On parle plus de naturopathe. Les high practikers, vous avez effectivement ce qu'on appelle professionnels de santé, des docteurs en santé qui sont pas forcément médecins, parce que le doctorat, bah, ça peut s'attribuer à plein de gens, hein. Il y a des spécialistes.
Mais oui, docteur Célia Morès sur Nutri Radio, docteur en neurosciences,
voilà, docteur en sciences, etc. Et il y a de plus en plus de personnes. Alors, attention.
Moi aussi, je suis docteur. Vous savez, si vous allez au Brésil, il y a plein de docteurs. Vous avez pas dit, vous savez, docteur.
Non, mais alors, moi, je vais peut-être pas me faire des copains ou des copines. Il y a aussi un autre excès de cette médecine fonctionnelle. C'est que je vois de plus en plus sur Instagram.
Ah là là, m'en parlez pas.
Des jeunes filles mignonnes, jolies, qui sont coachs en nutrition.
Des hommes aussi, hein. Il y a aussi
et des hommes qui sont coachs en nutrition. Ils n'ont aucun bagage scientifique et ils font 100 000, 200 000 vues. Ils sont très contents. Et tout ça, en plus, en proposant des choses pas tout à fait sérieuses. Et ça peut jouer en notre défaveur. Et moi, en tant que président du CINAMIEF, je voudrais qu'on fasse aussi un petit peu le tri. qu'au niveau d'Internet ou des réseaux sociaux, il y a un petit nettoyage qui soit fait, parce que c'est aussi une des critiques qu'on peut nous faire et que les médias pourraient nous faire, et à juste titre, qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose...
Tout le monde est médecin, tout le monde a son modèle, tout le monde est expert.
C'est comme l'équipe de France, tout le monde est entraîneur de l'équipe de France.
Non mais c'est grave ça.
Et voilà, tout le monde sait tout faire, et ça c'est catastrophique.
C'est encore pire, parce que là ils prescrivent, et en plus, ce que vous dites c'est vraiment d'actualité, puisqu'une récente étude allemande a révélé que de nombreux influenceurs Instagram recommandaient des compléments alimentaires avec des dosages qui dépassent les apports journaliers recommandés, et que c'est un problème en réalité. Et les chercheurs ont souligné l'absence d'avertissement sur les risques potentiels liés à ces surdosages et appellent à une régulation plus stricte des contenus sur les réseaux sociaux. Je pense que moi, sur les contenus santé et réseaux sociaux, vous avez raison, ça devrait être quasiment...
censuré.
Mais pas censuré, parce que je suis contre la censure, mais mieux encadré véritablement, ça c'est sûr.
Mieux encadré. Et ça, c'est pour ça que, je vais encore faire la pub pour mon syndicat, mais c'est pour ça que le CINAMIEF, qui est constitué de médecins, de pharmaciens et de professionnels de santé, mais des gens qui ont vraiment une très grande qualité d'anamnèse, d'interrogatoire et de prise en charge, avec un background scientifique suffisant, on voudrait justement... faire un petit peu le tri par rapport à ce que propose de manière un peu abusive les réseaux sociaux.
Vous savez ce que vous pouvez faire, j'ai une idée. Sur Insta, sur les réseaux sociaux, vous avez les comptes validés et certifiés avec le petit truc bleu là, la petite coche bleue.
Oui.
Bah, pour les professionnels de santé, il devrait y avoir la coche verte. Et ceux qui ont la coche verte, c'est seulement ceux qui ont, c'est des médecins, des pharmaciens.
Oui, puis en plus, ils ont code vert, ça veut dire membre du CINAMIEF.
Non, mais déjà de base. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Le fait d'être adhérent à un organisme scientifique.
Ah oui, parce
sérieux,
que si on n'adhère pas chez vous, par exemple, moi, par exemple, je peux pas.
Ah ben non, si vous n'êtes pas adhérent chez moi, vous pouvez pas vous dire labellisé. Enfin,
non, mais je peux pas être adhérent. Il faut être soit
ah
médecin.
Ah non, pour être adhérent, voilà, il faut vraiment avoir les diplômes.
Parce qu'il y a mon boulanger qui a écouté cette émission, il m'a dit mais moi je veux être adhérent au CINAMIEF.
Non, tout le monde peut pas adhérer au CINAMIEF. Et peut-être que à l'avenir, ça pourrait être une labellisation, un peu comme les labels qu'on donne maintenant pour un peu tout et n'importe quoi, les normes ISO, les normes machin. Les
heureusement qu'il y a quand même des labels.
Non, mais heureusement qu'il y a des labels. Parce que c'est vrai qu'il y a, moi, j'ai des patients qui se sont fait un peu avoir, justement parce qu'ils ont été tentés de suivre une Instagrammeuse qui n'y connaissait rien. Et en fait, derrière, ben, il y avait une maladie chronique qui n'a pas été diagnostiquée, ce qui est quand même très dommage. Ou des fois, des surdosages, comme vous disiez. Et qui font dire que les compléments alimentaires, parfois, peuvent être mal supportés. Ce qui est tout à fait vrai, ce qui prouve bien leur efficacité, d'ailleurs.
Et sur les conseils sur les réseaux sociaux, sur les huiles essentielles et tout, c'est catastrophique. Bon, et le meilleur label qui existe, c'est le label et la bête. Hein ? On va revenir dans un tout petit instant. On va revenir dans un instant pour la suite de cette émission.
Il est en forme.
Mais non, je suis pas bien, je suis malade sur Nutri Radio.
En plus de 30 ans, les laboratoires COPMED se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition, ils proposent aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Vincent Renaud sur Nutri Radio. Alors,
bonjour. Bonjour
oui,
Fabrice.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va, alors vous venez me voir pourquoi, cher patient ?
Ah, on va se mettre dans cette situation. C'est une situation.
Qu'est-ce qui vous amène ?
C'est une fiction, mesdames, messieurs. Je joue le rôle d'un patient et tout de suite, nous allons faire la différence entre le médecin conventionnel et le médecin fonctionnel. Différentes approches. On a fait ça pour le mal de tête la semaine dernière et on va faire ça maintenant pour le mal de.
De ventre ?
De ventre ?
Ah oui, comment ça va ?
Oh là là !
Quand on dit comment ça va, c'est... Vous savez d'où ça vient, bien sûr.
Bah non, rappelez-le, non.
Comment ça va ? Comment on va aux toilettes ?
Ah
comment
oui,
ça va ?
J'ai entendu ça, d'accord.
Bah comment ça va bien ? Comment ça va bien, comme il disait chez moi en Normandie quand j'étais là-bas ?
Alors, vous avez l'accent normand, faites-vous ?
Ah bah j'ai l'accent normand.
Ça, c'est l'accent normand, ça ?
Ben oui, comment ça va bien ?
Ah ouais, je m'en rendais pas compte.
Eh ben oui.
Et c'est pour ça que je suis jamais allé là-bas. Non, c'est vrai.
Ah ben il y en avait certains, ils roulent un peu les airs, hein, parce que c'est quand
les combats. Ah oui, non, mais c'est bon, j'adore les accents, j'adore.
Ah, les bons accents, ça change du sud. Ici, on a l'accent un peu de... un peu du sud.
D'accord, le one man show sur les accents et imitations.
On peut faire tous les accents si vous voulez, l'accent belge une fois.
Ouais, attendez,
on va avoir, faire le
médecin. On va avoir des
bonjour,
problèmes, mais il est fou. Il a pété. Non, attention,
l'accent
les accents
canadien.
Les accents 2025, c'est très, 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 très glissant. Attention.
Ah bon, d'accord.
Le docteur Vincent Renaud sur le Nutri Radio. Donc, on va faire c'est qu'on va faire une simulation de. Enfin, une simulation, une fiction. Quelqu'un qui vient vous voir pour dire voilà, un médecin conventionnel.
D'accord.
Voilà, bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Voilà, j'ai mal au ventre.
Ah, ça fait combien de temps que vous avez mal au ventre?
Ça fait une semaine.
Une semaine? Vous allez bien aux toilettes?
Ça va.
Ça va. Mais c'est une douleur qui est située à peu près à quel endroit?
Dans le bas du ventre.
Dans le bas du ventre. Et donc, est-ce que vous avez des gaz? Est-ce que vous avez... Non,
non.
La diarrhée? Celle liquide?
Pas trop.
Envie de vomir? Des nausées?
Après, ça dépend selon... En fait, vous, toutes ces questions que vous allez poser, donc là, je réponds, c'est une fiction, mesdames, messieurs, mais toutes ces questions, donc, par rapport aux réponses, vous allez avoir des indices, c'est ça?
Oui, ça va me donner des indices. C'est la partie haute, partie basse. Est-ce que vous avez mangé quelque chose qui n'était pas frais? Alors, on va éliminer une gastro-entérite, une intoxication alimentaire. On va essayer d'éliminer une urgence chirurgicale. Bon, là, a priori, si le patient vient vous voir, c'est qu'il n'est pas plié en deux avec 42 fièvres. Bon, c'est pas trop inquiétant. Si c'est une douleur qui remonte de plusieurs jours, c'est là aussi, il n'y a pas d'urgence. La douleur aigu, de toute façon, on va éliminer l'appendicite ou on va éliminer une péritonite. Donc, on va avoir tout de suite des signes d'appel. Donc, les douleurs aiguës, en général, finissent aux urgences, même si ça sature les urgences. Mais c'est plié en deux, des vomissements, un peu de fièvre, ça c'est l'appendicite. C'est l'urgence classique qui va être ensuite vue par l'interne de chirurgie viscérale qui va venir derrière. On va faire des radios, on va faire éventuellement un scanner, une échographie dans l'urgence. Et on va éliminer évidemment une cause chirurgicale, une occlusion ou quelque chose de problématique, une invagination intestinale, une hernie étranglée. Voilà, je ne vais pas faire tous les diagnostics parce que c'est un cours de médecine et ça dure quand même 10 ans les études de médecine. Donc si vous voulez me garder pendant 10 ans, cher Fabrice, on a plein de sujets à faire.
Ah oui, après on peut pas tout faire non plus, vous savez que la réglementation est assez stricte et donc c'est bien d'évoquer des petits cas en sachant que, et on le rappelle évidemment une nouvelle fois.
Salut, moi c'est Pollux. Alors n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
C'est aussi pour vous enlever un peu de stress, mesdames, messieurs, parce que parfois on a des douleurs et on s'imagine, on ne sait pas.
Exactement.
Donc, alors déjà, le process d'un médecin, c'est bien de se mettre dans la peau vie ma vie de médecin,
mais c'est stressant pour un médecin parce que effectivement, faut pas qu'il passe à côté de quelque chose de grave. Mais je vous dis, les urgences, c'est une douleur aiguë qui date depuis 48 heures, 24 heures. Moi, j'ai fait beaucoup d'urgences on nous appelait en pleine nuit avec des gens pliés en deux. C'est un autre domaine. La douleur fonctionnelle ou la personne qui vient pour un mal de ventre, nous, notre principale préoccupation en médecine conventionnelle, c'est de se dire, est-ce qu'il a une diverticule, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une infection chronique, est-ce qu'éventuellement il aurait des polypes, il aurait des causes mécaniques qui pourraient expliquer ça. Donc on va palper l'abdomen, on va regarder un petit peu où est-ce que ça se situe, c'est plutôt hypochondre droit, hypochondre gauche, est-ce que c'est plutôt vers le bas, parce que selon la localisation de la douleur, ça va nous dire si c'est plutôt le grêle, le côlon, l'estomac, est-ce que c'est le foie qui souffre. Et donc on va petit à petit faire des diagnostics d'élimination. Ensuite, il y a aussi cliniquement, est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés? En particulier, si c'est une intoxication alimentaire, une gastro-entérite, souvent en général, ils vous le disent, je pense que j'ai une gastro et je viens vous voir parce que j'ai les selles liquides, j'ai des vomissements.
Ça peut durer combien de temps ça, une intoxication alimentaire?
Une intoxication alimentaire, ça peut durer entre 8 et 15 jours.
Ah oui, quand même.
Ça peut être assez long. Et dans ces cas-là, nous, on va faire soit des traitements d'épreuve. Alors, on va mettre le patient sous antispasmodique, déjà, pour le soulager. La première chose que le patient demande, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour soulager ma douleur? Si c'est des douleurs plutôt colon, grêle, on va donner des antispasmodiques. Vous avez toute une famille, une série de classes de médicaments allopathiques qui servent et qui soulagent très bien ces spasmes du colon ou du grêle. Si c'est une gastro-entérite, on va donner évidemment en général des plantes, pas des plantes, mais des médicaments qui bloquent le transit. On va donner des pansements, on va donner de l'argile pour essayer de contenir un peu les selles. On va donner des antinauséeux. Bref, vous avez vraiment un arsenal de médicaments relativement limité mais efficace, qui marche bien et qui permettent effectivement déjà de réduire la symptomatologie douloureuse de son patient. Mais ça, c'est dans le cas où la patiente vient une fois, puis vient une deuxième fois, six mois après, ah, je reviens, j'ai les mêmes douleurs. Et donc, à un moment donné, le médecin va dire, bah, ça serait bien de passer une échographie du foie, des intestins, même si l'échographie n'est peut-être pas le meilleur des examens. Et puis, allez voir un spécialiste, je serai rassuré. Il va voir le gastroentérologue, il va dire, bah, écoutez, on va faire une coloscopie, une endoscopie. C'est vrai que l'endoscopie, ça a révolutionné la gastroentérologie, mais ça aussi fait perdre un petit peu la qualité du diagnostic clinique d'un médecin.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a plus le temps, donc on met... comme dirait...
Moi, je connais... C'est quoi la différence entre les deux ?
Bah, c'est-à-dire que le gastro-entérologue, il va vous entuber.
Oui, mais par la bouche.
Par la bouche et par en bas.
Oui. Hein,
il va vous faire... Moi, alors, j'embrasse mes amis gastro-entérologues qui nous écoutent. Je les appelle les tubologues. Voilà. Et l'expression de Vincenzo Castronovo, c'est « Oui, je me suis fait entuber la semaine dernière. » Bon, en fait, ça voulait dire qu'il s'est fait faire une coloscopie. Ça, c'est un examen vraiment qui permet d'éliminer une cause organique. Un cancer, une tumeur, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une maladie cœliaque, des maladies vraiment graves, qui peuvent porter conséquence sur notre santé, qu'il va falloir vraiment traiter avec des médicaments et de l'allopathie. Mais vous allez avoir 80% de vos patients qui absolument reviennent avec une coloscopie, fibroscopie strictement normale. Donc le diagnostic du médecin, bah, écoutez, je pense que c'est dans votre tête, c'est le stress. Rentrez chez vous, et vous repartez avec un antispasmodique. Éventuellement, on va vous donner un truc pour l'estomac qui ne sert à rien, ce qu'on appelle les IPP, parce qu'il faut bien justifier la consultation, même si ça ne dure que 10 minutes. Et vous rentrez chez vous et vous avez toujours mal et vous dites, mais finalement, on ne sait pas ce que j'ai.
Attendez, c'est grave quand même ce que vous dites, les IPP, ça ne sert à rien. On sait qu'il y a plein de médecins qui en prescrivent.
Vous ne faites pas l'hypocrite, Fabrice. On sait que ça ne sert à rien parce qu'en fait, quand vous avez un problème d'acidité dans l'estomac, c'est normal d'avoir de l'acidité puisque c'est grâce à ça que vous digérez. Mais j'ai déjà fait une émission là-dessus.
Oui, mais bon, quand même.
Voilà, bon. Les IPP, ça inhibe. En fait, ça atténue le symptôme et ça enferme le loup dans la bergerie. Mais ça ne traite pas la problématique. Il faut savoir que les sensations de brûlure gastrique sont ni plus ni moins liées à un dysfonctionnement de votre mucuse gastrique. Quand vous n'avez plus de ciment pour protéger votre estomac, c'est-à-dire le mucus, il est évident que l'acidité est vécue comme quelque chose de douloureux. Donc pour ça, il va falloir traiter, déjà améliorer la vidange de l'estomac, réguler éviter, et pour éviter les remontées avec des plantes anti-reflux, et surtout refaire le mucus avec des plantes comme l'aloe vera, le lithotam et autres qui vont servir à cicatriser.
Alors là, vous êtes parti déjà sur le, parti, sur le côté fonctionnel aussi.
Oui, fonctionnel.
Allez, donc, on va marquer une petite pause.
Le conventionnel, on a vu, il a éliminé les maladies organiques chroniques qui posent problème. Et vous rentrez chez vous avec une bonne ordonnance d'un antispasmodique, d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Et vous... Non, mais c'est à
et
peu
c'est
près
parti.
Ça.
Et c'est parti. Et en voiture Simone.
Et en voiture Simone. Et vous vous dites, bon, bah, je vais faire avec.
Alors, on va marquer une pause en sachant que ce parcours-là de médecine conventionnelle, encore une fois, on vous,
enfin, faites-le. Il est utile.
Faites-le, il est utile.
Ah bah bien sûr.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire. On ne vous dit pas de ne pas le faire. Faites-le. Mais une fois que ça a été fait et que vous êtes toujours avec votre mal-être et votre douleur, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Eh bien, on en parle dans un tout petit instant avec le docteur Vincent Renaud.
Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.
Il regarde sa montre, le docteur Vincent Renaud. Il est impatient de vous donner la suite de cette émission, puisqu'on parle aujourd'hui de l'approche du mal de ventre en médecine conventionnelle. Ça, c'était dans la première partie. Vous pourrez retrouver cette version, cette partie-là, pardon, en podcast juste à la fin de l'émission, parce que maintenant, on vous les met tout de suite en podcast. Et l'approche fonctionnelle. Une fois qu'on a fait le parcours de santé classique, qu'on a pris soin d'aller chez le médecin, qu'on a tout respecté, qu'on a fait tout bien, qu'on a pris les médicaments conseillés, mais qu'on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on va voir un médecin ou un professionnel de santé qui exerce en médecine fonctionnelle. Médecine fonctionnelle, ça veut dire que je vais essayer de comprendre ce qui dysfonctionne dans mon organisme et qui pourrait expliquer ces douleurs. Et il y a énormément, évidemment, de causes sur ces douleurs chroniques abdominales. Donc déjà, moi, je vais encore faire remplir tous mes questionnaires dont j'ai parlé la semaine dernière. Hein, une enquête alimentaire très approfondie, le mode de vie, ce que mangent mes patients, mais surtout la qualité de leur sommeil. Est-ce qu'ils font de l'activité physique? Est-ce qu'ils mangent vite, pas vite? Est-ce qu'ils mastiquent bien leurs aliments? Est-ce qu'ils sont dans un environnement pollué, pesticides, etc., ou perturbateurs endocriniens? Je vais, alors effectivement, en médecine fonctionnelle, la palpation de l'abdomen, elle n'est pas systématique. Parce qu'on considère que le patient, il a vu tellement de médecins avant nous, il est souvent dans l'errance médicale, et on va aller plutôt vers un interrogatoire approfondi sur les troubles fonctionnels. Donc ça veut dire que moi j'ai un questionnaire sur l'intestin, j'en ai fait plusieurs, le Candi-test et le SIBO-test, qui sont des gros questionnaires qui évaluent et les symptômes digestifs et tous les troubles extra-digestifs. Il faut savoir que quand il y a une douleur fonctionnelle abdominale, donc on est bien dans le fonctionnel et pas dans l'organique, il y a souvent des signes associés. Et c'est avec la jonction des deux, les signes extra-digestifs et les signes digestifs, qu'on va petit à petit avancer dans notre diagnostic et qu'ensuite, on va mettre des examens fonctionnels, en particulier bilan du microbiote, parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, même si les universitaires et les scientifiques disent que ça ne sert à rien et que pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour l'interprétation de ces examens du microbiote. Moi, ça fait 10 ans que je me forme à cette analyse-là, avec des laboratoires privés qui ont une technologie et un recul qui est extrêmement qui est du même niveau que les centres de recherche classiques français, INRA, INSERM, CNRS.
On va très vite aller chez eux d'ailleurs pour ouais. NutriTV, pour faire une route des labos. Ça va être un moment, je pense, ouais. très intéressant.
Et vous verrez la qualité des prélèvements, du pré-analytique. Et donc, je rassure les auditeurs qui feraient des bilans de microbiote et qui s'entendent dire parfois par leur gastro-entérologue « Mais on n'y connaît rien là-dessus, tout ça, c'est de la foutaise. » La problématique, c'est qu'à force d'attendre des études et de voir des justificatifs, dans 10 ans, on n'aura toujours pas progressé. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis, ces analyses du microbiote sont faites, sont enseignées à la faculté, même si on n'a effectivement pas suffisamment de recul, mais au moins avançons. Hein, c'est vraiment dommage de laisser le train passer et de s'apercevoir dans 10 ans qu'on aurait peut-être pu soigner des gens avant et pas leur donner que de la biothérapie pour des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est-à-dire les immunosuppresseurs, ou que des médications relativement lourdes et toxiques sur le long terme, hein, pas dans l'aigu parce que les médicaments allopathiques sont utiles, mais sur le long terme, alors qu'on aurait peut-être pu s'aider avant de ces bilans très intéressants et très importants pour notre diagnostic. Donc dans l'interrogatoire, il y a toute la partie digestive, c'est le rythme des douleurs, si c'est accompagné avec si c'est soulagé par la défécation par exemple, s'il y a des urgences fécales, s'il y a des remontées acides, voilà, je ne vais pas faire toute la clinique et la sémantique, mais cet interrogatoire peut durer jusqu'à 20 minutes hein, quand je suis en cabinet. Sur la partie digestive, on va vraiment sortir une petite échelle qu'on appelle l'échelle de Bristol, qui montre la nature de vos selles. C'est toujours difficile. Alors les patients sont parfois un peu gênés. Ah ben mes selles, oui, mais elles sont pas dures. Ça fait des billes. Ça fait quelle forme? Ça flotte pas. Ça laisse des traces sur la cuvette. Ça laisse pas des traces sur la cuvette. Tout ça, ça paraît pas très ragoûtant, quoi. On se dit. Mais en même temps, moi, quand j'étais généraliste, je m'intéressais pas du tout à la qualité des selles. Et pour la petite anecdote, je sais que j'ai déjà raconté sur Nutri Radio, mais quand j'ai fait mon premier remplacement en campagne, j'ai remplacé un vieux médecin qui avait plus de 80 ans, qui partait à la retraite. Et les patients, la première consultation, premier jour de ma consultation, j'ai un patient qui arrive, un paysan du coin, qui arrive, bonjour docteur, je me revois la partie avec mes accents. Et il est venu avec un bocal, et dans le bocal, il y avait ses selles, ses matières fécales. Et là, je l'ai regardé, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il me veut avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette médecine bizarre, cette médecine d'antan? Ça se fait plus, quoi, c'est ringard. Et en fait, ce vieux médecin, il avait absolument tout compris. Il faisait de la médecine fonctionnelle sans le savoir. Donc évidemment, j'ai dit à ce patient, ben non, vos selles, moi ça me sert à rien, rentrez chez vous, vous êtes gentil, mais on va d'abord faire une colo fibro, on va faire... Moi je suis un médecin, je suis un jeune, je suis moderne, hein, c'est la technologie, attention, hein, ça c'est la nouvelle médecine, vous, votre vieux médecin, il n'y connaissait rien. Alors qu'en fait, ces vieux médecins-là, je pense qu'ils avaient l'art de faire des bons diagnostics parce qu'ils s'intéressaient aux moindres petits détails. Ils allaient chez les gens, et quand vous allez en visite à domicile, vous apprenez énormément de choses sur leur mode de vie, sur leur hygiène, sur tout un tas de choses, et je sais que j'ai appris énormément de ces 10 années de médecine de campagne et je remercie ce vieux médecin de m'avoir ouvert les yeux sur des vieilles choses simples, basiques et qui ne sont plus enseignées bien sûr à la faculté de médecine et qui pourtant aujourd'hui me sont énormément utiles.
Merci beaucoup Vincent Renaud, le docteur Vincent Renaud qui partage. On reprend une émission la prochaine fois, on parlera, vous avez parlé des nouvelles technologies, et puis c'est vrai que quand on est jeune médecin, tout court, on a envie de, voilà, d'utiliser des trucs modernes et de se différencier un peu de ce qu'on pouvait faire voilà, il y a longtemps, c'est valable dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais j'avais envie de vous entendre, et on en reparlera sur, est-ce que vous avez intégré l'intelligence artificielle aujourd'hui par rapport à tous ces questionnaires dont vous parlez, il y a peut-être des choses à mettre en place. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pensez le faire? Comment ça pourrait être aussi un complément pour gagner du temps? Et bon, c'est un sujet dont on parlera la semaine prochaine peut-être, ou en tout cas très vite sur Nutri Radio dans cette émission Santé Intégrative. Merci docteur.
Ça marche.
On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Restez sur Nutri Radio. L'émission est en podcast. Tout de suite.
On vous embrasse.
Retour de la musique. Tout de suite sur Nutri Radio.
Santé Intégrative. Vincent Renaud sur Nutri Radio.